France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Toujours plus de touristes en Italie et c'est un paradoxe pour un pays qui tente en vain d'en limiter les effets indésirables et qui n'y parvient pas pour l'instant. Explication dans une minute. Les musées français, eux, ont fait le plein l'an dernier, nous verrons cela. La photo du gouvernement Bayrou à l'Elysée, premier conseil des ministres ce matin, et un objectif de déficit de 5% qui sera bien difficile à tenir cette année. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est en visite en Syrie, une première depuis la chute de Bachar al-Assad. À suivre encore, on l'a appris il y a quelques minutes, une prise d'otage en cours à la prison d'Arles. C'est dans les Bouches-du-Rhône, on voit ça dans un instant. De plus en plus de services d'urgence saturés en raison de la grippe. Nous serons à Chalon-sur-Saône. Et les EHPAD, bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Qui ont désormais davantage de liberté pour fixer leurs tarifs.
Oui, désormais le prix de la chambre sera proportionnel aux revenus des résidents avec un écart maximal de 35% entre le tarif le plus bas et le tarif le plus haut.
Autre changement en ce début d'année, le prix des paquets de cigarettes qui vient à nouveau d'augmenter, mais ce fumeur d'Aix-en-Provence est prêt à payer.
Ah, ça me ruine. Tout ce que j'ai, ça me le prend. 300 euros minimum chaque mois. J'ai plus qu'à manger les croque-monsieur toute la journée pendant un mois. Mais comme je suis accro au tabac, je fume.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, la chirurgienne et sa patiente. Il y a 2 ans, la professeure Agnès Dupré-Bory a réalisé la greffe de langue de Maglone Haribaud. Victime d'un cancer, Maglone raconte dans un livre intitulé « Langue étrangère ». Et cela arrive à de plus en plus de femmes. Si c'est votre cas, si vous avez des questions, 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France sur les pistes et la question de la sécurité des skieurs après le grave accident de Cyprien Sarrazin la semaine dernière. Ce sera avec Clémentine Blondet du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Constance Dolé, Lerita Mitsuko et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Je vous en parlais il y a un instant, cette prise d'otage. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Cette prise d'otage qui est en cours à la prison d'Arles, département des Bouches-du-Rhône. Plusieurs personnels sont retenus actuellement.
Oui, c'est une prise d'otage qui a démarré dans la matinée. Le preneur d'otage retient 5 personnes, 4 membres du personnel soignant et un surveillant pénitentiaire. C'est un détenu qui est connu pour rencontrer des problèmes psychologiques et psychiatriques. Plusieurs équipes dédiées à ce type d'intervention et à ce type de situation de crise sont sur place. Vous avez notamment les ERIS qui sont dédiés à l'administration pénitentiaire, le RAID également qui se rend sur place. Donc une prise d'otage qui dure depuis plus d'une heure maintenant sous la menace d'une arme blanche dans cet établissement qui a ouvert en 91 et qui est une maison centrale. Donc là où sont les détenus condamnés pour de longues peines et en capacité d'accueillir 156 personnes.
Merci Ariane Grissel pour ces premières informations donc à propos de cette prise d'otage en cours à la prison d'Arles. Vous revenez évidemment un peu plus tard dans ce 13-14 si vous avez davantage d'informations à ce sujet. Avant cela, nous allons donc nous rendre en Italie puisque c'est un pays qui essaye de limiter le tourisme et notamment ses désagréments. On pense à la pollution ou encore à la pénurie de logements, mais manifestement, ça ne marche pas et c'est peut-être une leçon pour plusieurs destinations françaises. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en Italie. Le nombre de touristes chez vous l'an dernier, Bruno, a encore augmenté.
Oui, de 2,5% selon les premières estimations. On avait retrouvé les niveaux d'avant Covid en 2023 et ils sont donc à nouveau dépassés. Si on ne parle que des touristes étrangers, ils étaient 72 millions en 2024. Et les données consolidées devraient confirmer que la première nationalité, ce sont les Allemands et que le site touristique le plus visité, c'est le Colisée à Rome. Le secteur, Jérôme, représente un peu plus de 6% du PIB.
Alors, vous nous en parlez régulièrement sur Inter, Bruno, et je l'ai rappelé, l'Italie a mis des mesures en place contre le surtourisme, ça n'a aucun effet ?
Alors des mesures, oui, mais des demi-mesures et en ordre dispersé, il ne faut pas tarir la manne. Venise a mis en place un ticket d'entrée de 5 euros les jours de grande affluence pour inciter les Italiens notamment à venir à des périodes moins chargées. Le seul vrai résultat, c'est d'avoir fait entrer plus de 2 millions d'euros dans les caisses. L'an prochain, le ticket d'entrée va doubler à 10 euros. Pompéi a fixé un plafond quotidien de visiteurs pour cette année à 20 000, mais il ne sera atteint que quelques jours par an. À Florence, la mairie veut interdire en 2025 l'enregistrement de nouveaux appartements sur les plateformes. Vraie mesure, mais elle n'a aucune loi sur laquelle s'appuyer. Donc, évidemment, c'est contesté. Ça se jouera en justice en mai. Le gouvernement estime que des mesures d'encadrement suffisent globalement. Depuis le 1er janvier, vous risquez une amende de 800 à 8 000 euros si vous louez un logement en courte durée et que vous n'avez pas de code d'identification. Mesure pour lutter contre le marché noir. Les propriétaires sont censés accueillir et vérifier eux-mêmes de visu l'identité des locataires. Pas de boîte à clés. Mais pour l'instant, le gouvernement écarte une loi qui permettrait aux maires d'interdire la mise en location de nouveaux appartements.
Merci Bruno Duvic, en direct de Rome pour Inter. Alors, on n'a pas encore les chiffres du tourisme français, en revanche, pour 2024, même si on a des indications davantage d'affluence à Paris, effet Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis, et là, c'est valable pour toute la France, le succès des musées l'an dernier. Fréquentation en hausse. Bonjour Héloïse Roger.
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est une conséquence de la météo déprimante de ces derniers mois, mais les premiers chiffres sont très bons.
Oui, c'est par exemple le cas. C'est une année record pour la Monnaie de Paris. 30% de visiteurs en plus par rapport à 2019, année de référence avant Covid. Une belle progression grâce à une exposition qui a même été prolongée. D'or, d'argent, de bronze, une histoire de la médaille olympique. Marc Schwartz, c'est le président de la Monnaie de Paris.
Nous exposions toutes les médailles qui avaient déjà été frappées par la Monnaie de Paris à l'époque. Depuis 1896, les premiers Jeux modernes qui sont déroulés à Athènes, mais également, et c'était un des seuls lieux à Paris où on pouvait les voir, les médailles de Paris 2024. Les trois médailles en Jeux Olympiques et en Jeux Paralympiques qui étaient exposées au musée de la Monnaie de Paris.
Ça a très bien fonctionné aussi pour les expositions immersives. Plus 8% de fréquentation aux Carrières des Lumières des Baux-de-Provence. Près de 750 000 visiteurs ont marché dans les pas des pharaons d'Égypte. Fréquentation historique aussi pour le Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. Près de 210 000 visiteurs l'an passé. Les arènes de Nîmes ont-elles accueilli plus de 400 000 personnes, plus de 300 000 à la Cité de la mer de Cherbourg. Et puis il y a aussi les plus gros poissons. 1 200 000 visiteurs pour le Quai Branly, tout comme le Mucem marseillais. Le Centre Pompidou lui enregistre plus de 300 200 000 visiteurs en hausse de 22%. Une augmentation que le musée attribue au succès de la rétrospective Brancusi. Et bien sûr, à l'exposition sur le surréalisme, de beaux résultats pour Beaubourg avant sa fermeture progressive dès le mois de mars pour un vaste projet de rénovation. Reste maintenant à savoir combien de visiteurs ont accueilli les deux musées phares parisiens, Orsay et le Louvre, encore en plein comptage.
Merci Héloïse Roger pour ces informations. Nous étions il y a une minute en Italie. C'est l'un des rares pays de l'Union européenne à être plus endetté que la France, si on compare le chiffre à son produit intérieur brut. En revanche, le déficit italien, lui, est en net baisse, on l'a appris ce matin, 2,3% seulement au troisième trimestre. C'est bien moins que la France qui vise désormais au-dessus des 5% pour cette année. Et on va y venir dans un instant, mais puisque c'est l'un des dossiers chauds du nouveau gouvernement de François Bayrou, allons à l'Élysée. Premier conseil des ministres ce matin pour cette équipe. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée pour Inter. Une équipe qui, comme le veut la tradition, Marie, est arrivée groupée.
Oui, François Bayrou arrivé à pied à l'Élysée, encadré au premier rang par ce qu'il appelle lui-même les poids lourds de son gouvernement. Elisabeth Borne à sa droite, Manuel Valls, Bruno Retailleau à sa gauche. À Matignon, on veut croire que l'affiche a surpris les Français en bien. Des visages connus pour la photo de rentrée, à défaut d'avoir arraché un pacte de non-censure. À cette équipe, le président a adressé ses vœux d'après son entourage. Unité, détermination, responsabilité. Et il a appelé les ministres à l'audace, assure la nouvelle porte-parole du gouvernement. L'ex-sénatrice LR, Sophie Primas.
Il nous a dit qu'il ne faudra pas caboter le long du rivage, pour reprendre exactement son expression, mais il faudra faire preuve d'audace ne pas se contenter de gérer, voilà, mais de proposer de nouveaux dispositifs.
Un gouvernement qui ne peut pas se contenter d'être gestionnaire, mais aujourd'hui pourtant le menu de ce premier conseil des ministres était bien maigre. Quelques nominations et un unique projet de décret, alors que des questions cruciales restent en suspens. Quel texte prioritaire à l'Assemblée? Quel calendrier pour le budget? Faut-il revoir la prévision de déficit pour 2025? Cela dépendra des discussions avec les groupes politiques, temporise la porte-parole du gouvernement. Et puis surtout, quelle longévité pour ce nouveau gouvernement? Sophie Primas renvoie cette responsabilité aux oppositions.
Évidemment, moi je ne veux pas être condamnée avant d'avoir essayé, mais je crois que chaque groupe politique a devant lui aussi la demande des Français. Ça fait un an en fait que nous sommes en situation instable, un an que nous repoussons des réformes Et donc chaque groupe politique devra, au-delà de ses postures, au-delà de ses déclarations et de ses tweets, prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer, prendre sa part.
Et il existe un chemin pour sortir de l'instabilité politique, a tenté de rassurer François Bayrou ce matin face à ses ministres, sont détaillés.
Marie Mollet avec les moyens techniques à l'Élysée d'Olivia Branger. Merci à toutes les deux. Alors le précédent Premier ministre, Michel Barnier, a échoué dans sa tentative de redresser les comptes publics. Ça lui a même coûté son poste. Conséquence, la situation continue de se dégrader. François Bayrou évoquait fin décembre un déficit, c'est-à-dire la différence entre dépenses et recettes. Déficit autour de 5% cette année. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour Jérôme.
Cet objectif sera extrêmement difficile à tenir.
Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, la croissance pour 2025 risque d'être inférieure aux prévisions sur lesquelles s'était appuyé Michel Barnier pour construire son budget. La faute notamment à l'incertitude politique et budgétaire. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. L'INSEE comme la Banque de France ont revu à la baisse leur scénario à 0,8-0,9% tout au plus. Or, moins de croissance, eh bien, c'est moins d'activité ou de consommation et donc inévitablement moins de rentrées fiscales dans les caisses de l'État. Et puis, autre problème, de plus en plus de mesures du budget Barnier qui devaient permettre de renflouer les caisses s'éloignent. Dernière en date, cette contribution exceptionnelle qui devait être demandée aux ménages aux plus hauts revenus, elle devrait disparaître selon nos informations pour raisons juridiques. On pense aussi à l'effort demandé aux retraités, désormais aux oubliettes ou encore à la taxe sur l'électricité, très compliquée à reproposer. Sans tous ces milliards d'euros, réduire de manière significative un déficit qui a bondi à 6,1% du PIB en 2024 devient périlleux. 5% en 2024, ça paraît désormais quasi inaccessible. 5,5% semble plus probable, à moins que ce chiffre ne soit lui aussi devenu un peu optimiste. Des ajustements sont en cours de discussion, nous confirme ce matin Bercy.
Claire Chaudière, le Conseil des ministres de la matinée qui s'est tenu sans le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en visite en Syrie aujourd'hui aux côtés de son homologue allemande, Annabella Baerbock. Les deux sont les premiers ministres occidentaux à se rendre à Damas depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition emmenée par les islamistes radicaux d'HTS. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer dans une minute quel est l'enjeu pour nous. Il faut notamment parler de terrorisme. Avant cela, direction la Syrie, où le ministre s'est rendu à l'ambassade de France ce matin, suivi par Arthur Saradin.
Bien, c'est avec beaucoup d'émotion que je me trouve au pied du drapeau.
C'est une première depuis la fermeture de l'ambassade de France à Damas en 2012, la visite officielle du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Dans la cour de la représentation diplomatique, face à la façade décrépie et délavée par le temps, une condamnation de l'ancien régime.
Nous avons quitté cette emprise du fait de la dégradation des conditions de sécurité à Damas, provoquée par la répression sanglante par le régime criminel de Bachar al-Assad de la révolution de 2011. Et il y a un peu moins d'un mois, un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens.
Jean-Noël Barrot salue ensuite le personnel resté s'occuper des lieux pendant toutes ces années et fait une annonce officielle à la presse.
Dans les semaines qui viennent, en fonction de l'évolution des conditions de sécurité, nous allons préparer progressivement les modalités de rétablissement de la présence française ici à Damas.
Plus tard cet après-midi, le ministre devrait rencontrer Ahmad Shera, le chef des nouvelles autorités syriennes. En plus de la reprise des contacts diplomatiques, plusieurs dossiers brûlants sont sur la table, la lutte contre l'État islamique et la transition démocratique que la France appelle de ses voeux.
Et le chef de la diplomatie française, toujours avec son homologue allemande, s'est ensuite rendu à la prison de Sednaya, symbole de la répression de masse du pouvoir de Bachar al-Assad. Christian Chesneau, on vous retrouve. Arthur en a dit un mot, le terrorisme, c'est l'un des sujets.
Oui, parce que si la réouverture de l'ambassade de France à Damas se fera de manière progressive, c'est aussi en partie pour des raisons sécuritaires. Le Quai d'Orsay reste traumatisé par l'attentat à la voiture piégée contre la représentation diplomatique française à Tripoli après la chute de Kadhafi. Alors aujourd'hui, la Syrie est un pays ouvert aux quatre vents. Ses frontières sont poreuses. Son appareil policier est en cours de reconstruction, donc très fragile. Le risque terroriste est réel, pas seulement venant de Daesh ou d'Al-Qaïda, mais aussi de réseaux d'anciens loyalistes ou encore de pays étrangers comme l'Iran. Et en fait, la menace peut venir de tous ceux qui ont intérêt à déstabiliser le nouveau pouvoir. Et ils sont nombreux. Mais au-delà de la sécurité, il y a le chantier politique de la transition. Là encore, un chemin semé d'embûches. La France défend un processus démocratique et inclusif. Or, le nouveau maître de Damas, Ahmed al-Shera, de son nom de guerre, Abu Mohamed el-Johali, consolide son pouvoir en plaçant des hommes de confiance à tous les postes clés, mais surtout, Il ne prévoit pas de nouvelle constitution avant 3 ans et des élections générales avant 4 ans. Autant dire une éternité.
Le ministre français et son homologue allemande qui rencontre en ce moment le nouveau dirigeant syrien dont vous parliez, Christian Chesneau, Ahmed Al-Shara. Merci à vous. À Brest, ce matin, la police a arrêté un influenceur algérien soupçonné d'avoir diffusé sur le réseau social TikTok des appels à la haine. L'une de ses vidéos appelait à commettre des actes de terrorisme en France, mais aussi en Algérie. Il est suivi sur TikTok par des centaines de milliers de comptes et il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Lui est mis en examen depuis près d'un an maintenant pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs de plus de 15 ans. Le comédien Philippe Cobert, 73 ans, déjà récompensé de 3 Molières dans sa carrière. Les faits présumés concerneraient 3 femmes mineures et elles prennent la parole aujourd'hui dans le journal Libération. 2 d'entre elles le font à visage découvert et Delphine Evenou, elles décrivent une même emprise du comédien alors qu'elles étaient lycéennes.
L'une a 16 ans, l'autre 17. Elles admirent Cobert, le voient comme un mythe et un mentor. Il y a d'abord de longues conversations sur le théâtre, puis les agressions sexuelles et viols dont elles témoignent. Pour Agathe, les faits se déroulent sur plus d'une décennie, jusqu'en 2022. « J'étais pauvre, mais sans argent, sans contact, il a fait de moi sa chose », dit-elle. Philippe Cobert l'aurait aussi, selon des mails consultés par Libération, donné à des inconnus recrutés sur des sites de petites annonces. « Des centaines de viols », dit Agathe Pujol. C'est la police qui est venue la solliciter sur les conseils de Pauline qui leur rapporte des viols sous l'emprise du comédien de 45 ans, son aîné. Pauline s'est décidée à porter plainte après le témoignage de Solveig Allouin en 2018. Une première plainte classée sans suite avec une condamnation pour diffamation. Alors Pauline choisit en octobre 2023 des poursuites pour simple atteinte sexuelle pour éviter le même sort. Mais c'est bien la qualification plus grave de viol que le procureur retiendra au moment de la mise en examen de Philippe Cobert. Les 3 plaignantes ont été entendues par le juge d'instruction en septembre. Philippe Cobert n'a pas été auditionné depuis sa garde à vue lors de laquelle il avait gardé le silence.
L'acteur français et ex-boxeur Dimitri Bueto, vu dans la série Jusqu'ici tout va bien, lui est en garde à vue, soupçonné d'avoir battu à mort son ancien beau-frère. C'était le 1er janvier à Apt, dans le Vaucluse. Il a été interpellé en gare de Lyon alors qu'il se trouvait dans un train pour Paris. Une enquête pour assassinat est ouverte. À Rennes, un homme de 22 ans tué à l'arme blanche hier soir dans le quartier du Blône. L'endroit est connu pour le trafic de drogue. 4e décès par arme blanche à Rennes depuis septembre. Et puis à Montpellier, 2 hommes à bord d'une voiture ont été visés par des coups de feu. Toujours hier soir, un homme de 33 ans a été tué, un autre âgé de 24 blessé. Selon le parquet, ces faits seraient en lien avec un règlement de compte.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Les réunions de famille et d'amis de fin d'année ont fait leur effet visiblement. Toutes les régions sont désormais touchées par la grippe et la circulation du virus s'intensifie selon Santé publique France avec un niveau très élevé chez les moins de 15 ans et on n'est pas encore au pic. Conséquence, déjà des services d'urgence saturés à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne où le personnel est en grève symbolique, à Dieppe en Normandie où le plan blanc est déclenché, même constat à Saint-Nazaire ou encore à Chalon-sur-Saône, l'hôpital William Moret de Chalon a carrément dû fermer hier son accueil aux urgences en renvoyant systématiquement sur le 15. Point de situation hier soir avec Sylvain Rollo, le directeur adjoint de l'hôpital.
Effectivement, on peut parler d'une saturation du service. Nous avons actuellement encore 48 patients au service des urgences, dont 28 personnes qui n'ont pas encore été prises en charge, avec un nombre de passages depuis minuit qui est quand même autour des 80 patients. Il reste actuellement un seul lit d'hospitalisation sur l'établissement, mais du coup, nous avons mis en œuvre des déprogrammations partielles des admissions programmées. C'est une situation qui dure depuis le début de la semaine, une épidémie de grippe et une épidémie de Covid qui a augmenté la fréquentation, notamment de personnes âgées et on suspecte aussi que ce soit dû à une carence à cause des vacances de l'offre libérale.
Propos recueillis par France Bleu Bourgogne. Alors au-delà de cet épisode hivernal intense, comment sortir les urgences de la crise à court terme? Mathias Vargon, le chef de service des urgences en Seine-Saint-Denis, interpelle le nouveau ministre de la Santé, Yannick Noeder.
On avait dit que toutes les urgences seraient désengorgées fin 2024, ça n'est absolument pas le cas. Probablement parce que les patients ne trouvent pas de médecin de ville. Le désert médical s'est étendu et on n'a pas développé de solutions alternatives comme les infirmières de pratique avancée ou les kinés en direct, par exemple. Par ailleurs, on a énormément de mal à embaucher et à garder le personnel. Ce sont des métiers difficiles qui sont exigeants, qui demandent du temps et un engagement, et ça ne correspond pas exactement à ce que propose la société actuellement. Et travailler la nuit, travailler le week-end, ça n'est plus accepté comme mode de travail. Donc c'est un gros problème pour l'hôpital public. Donc pour 2025, ce que j'aimerais bien que le ministre fasse, s'il a le temps de le faire, c'est commencer à réorganiser le système de santé. On sait que dans d'autres pays, on a pu étaler la charge sur des infirmières, sur des kinés, sur des pharmaciens. Il faut être aussi moderne que dans d'autres pays et être moins corporatiste.
L'urgentiste Mathias Vargon au téléphone de Gabin Bocquet. Côté santé, l'une des nouveautés de cette année 2025, c'est donc la hausse des prix du tabac. Désormais, une majorité des paquets passe la barre des 12,50 € pour 20 cigarettes, mais les cigares, le tabac à chauffer, les paquets de tabac à rouler coûtent aussi plus cher. L'idée, c'est de faire baisser la consommation, mais chez les fumeurs, rencontrés par Fabien Ledu à Aix-en-Provence, ça n'est pas la tendance.
Philippe, par exemple, presque 18 € le pot de tabac à rouler tous les deux jours.
Ah, ça me ruine. Tout ce que j'ai, ça me le prend. 300 € minimum chaque mois. J'ai plus qu'à manger des croque-monsieur toute la journée pendant un mois. Mais comme je suis accro au tabac, je fume.
Alexis, lui, s'allume sa Marlboro. Le paquet lui coûte aujourd'hui, chaque jour, 13 €.
Malheureusement, c'est une addiction. En soi, on n'a pas vraiment le choix. C'est énervant, mais on fait avec.
Mais impossible pour lui de trouver moins cher.
Allez, même en Italie, en Espagne, c'est des frais. Donc, c'est pas tout le monde qui peut réaliser ça.
Alors, chez la buraliste Priscilla, on sent bien que les clients grincent des dents.
Pour eux, ils comprennent très bien que c'est pas nous. Et en fait, ils sont plutôt mécontents envers l'État.
Mais les fumeurs se ruinent sans songer un seul instant à arrêter. Patrick est moniteur d'auto-école.
Ça fait longtemps que je fume, donc c'est une priorité dans ce que j'achète. Je pense pas que quelqu'un qui est accro, qui est addict, va dire à un moment donné, il s'arrête, ça le saoule ou quoi que ce soit. Quel que soit le prix, il va continuer. C'est simplement augmenter parce qu'ils savent qu'on peut taper là-dessus, puis voilà.
Et ce n'est pas fini. Le prix minimum d'un paquet de cigarettes devrait atteindre 13 € d'ici 2027.
Reportage France Bleu Provence, la hausse des prix qui s'est tout de même accompagnée ces dernières années d'une diminution du nombre de fumeurs dans notre pays. 23% des Français fument des cigarettes chaque jour. On nous dit Santé publique France, le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Toujours au rayon des changements liés à cette nouvelle année, cette porte ouverte pour les EHPAD publics et associatifs. Ils sont nombreux à être en déficit, ils cherchent des ressources. Alors le gouvernement, on vous retrouve Sophie Bécherel, le gouvernement les autorise désormais à faire payer plus cher leurs pensionnaires les plus aisés.
C'est ça, une tarification différenciée qui entre donc en vigueur cette année, là où aujourd'hui il n'existe qu'un montant, différent toutefois, suivant les départements, et en moyenne de 1 800 € par mois pour un EHPAD public et de 1 964 € pour un EHPAD associatif, il y aura désormais une grille tarifaire suivant les revenus du résident. Plus vous gagnez, plus vous payez, avec une différence maximale de 35% entre le tarif le plus bas et le plus haut. Pas de changement pour les personnes avec de bas revenus, avec le minimum vieillesse par exemple. C'est pour les personnes qui peuvent payer plus que les choses évoluent. À ceci près, précise Marc Bourquin de la Fédération hospitalière de France.
Ça ne s'applique qu'à l'entrée, c'est-à-dire que le tarif ne va pas augmenter de manière importante pour les personnes qui sont déjà dans l'établissement. C'est au moment de l'entrée dans l'établissement que ça s'applique. Et la deuxième chose, c'est que les départements gardent la faculté de fixer un écart plus faible.
Donc, peut-être moins de 35%. Mmh. Le décret précise par ailleurs que les EHPAD publics ne pourront pas choisir leurs résidents et que la hausse maximum du prix de la chambre sera fixée par l'État et non par les départements. Plus 3,21% maximum pour 2025, quand on a vu des plus 6% ces dernières années. Ce changement acte au fond une plus grande justice sociale. Il ne devrait pas changer fondamentalement la grave crise financière que connaissent les EHPAD publics. Rappelons que 85% d'entre eux sont en déficit.
Merci Sophie Bécherel. Je reviens à cette information que je vous donnais au début de ce 13-14. Cette prise d'otage en cours à la prison d'Arles. Ariane Grissel, vous êtes avec nous. Vous avez davantage d'informations qu'il y a quelques minutes.
Oui, c'est une prise d'otage qui a démarré vers 11h par un homme qui est connu comme souffrant de problèmes psychiatriques et qui retient donc 5 personnes en otage, 4 membres du personnel soignant, un surveillant pénitentiaire et qui se trouvait à l'unité de soins quand il a brandi un pic artisanal pour donc retenir ces otages. Plusieurs équipes sont sur place, vous savez, des équipes dédiées à ce type de situation de crise, notamment les ERIS, le RAID est aussi en alerte. Ce détenu est un homme qui a été condamné à 18 ans de réclusion pour des infractions sexuelles. Il aurait était libérable, enfin il est libérable en 2031, et ce n'était pas ce qu'on appelle un DPS, c'est-à-dire un détenu particulièrement signalé, donc considéré comme particulièrement dangereux. C'est un homme de 37 ans qui demande à changer d'établissement pénitentiaire et qui donc retient depuis un peu plus de 2 heures maintenant 5 personnes en otage dans une situation qui, malgré ce contexte tendu, est décrite comme calme.
Merci Ariane Grissel pour ces dernières informations. À Mayotte, ce n'est pas un cyclone Chido 2 qui déferle, mais l'archipel est sous de fortes averses depuis ce matin. Elle provoque de nouveaux dégâts dans le secteur de Mamoudzou, nous apprennent nos confrères de Mayotte la Première. L'hôpital a été à nouveau inondé. Il faut dire que son toit se résume par endroits à des bâches en ce moment, donc même si ses pluies sont courantes en cette saison, compte tenu des circonstances, elles font bien évidemment des dégâts. À l'étranger, le président coréen Yoon Suk-yeol est toujours dans sa résidence présidentielle. Ce soir, il est 21h passé à Séoul et ce matin, la première tentative d'arrestation a échoué. En fait, les enquêteurs n'ont pu exécuter le mandat d'arrêt, pourtant délivré par la justice le 31 décembre dernier. C'était après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Ce matin, devant la résidence présidentielle, deux camps se sont fait face, ses soutiens et ceux qui veulent le voir partir. Notre correspondante Camille Ruiz est allée à leur rencontre.
La situation reste extrêmement confuse devant le portail de la résidence du président Yoon Suk-yeol. L'échec de son arrestation dans la journée a revigoré ses partisans. Kim Min-sop est étudiant.
Ce mandat d'arrêt est clairement illégal. Le bureau d'enquête est en train d'enfreindre la loi. Je pense qu'il devrait retirer ce mandat contre le président Yoon Suk-yeol.
Ce matin, sur les coups de 8 heures, heure locale, près de 150 enquêteurs et policiers sont entrés dans l'enceinte du domaine. Ils y ont passé plus de 5 heures en vain. Il semble que ce soit un mur humain qui a empêché l'arrestation. Un mur formé de militaires et d'agents de la sécurité présidentielle, d'après l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Résultat, vers 13h40, heure locale, le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités suspend la tentative d'arrestation. En colère contre cet échec, les manifestants pro-démocratie, eux, se sont assis sur la route dès leur arrivée vers 17h. Ils bloquent actuellement toute une voie de circulation. Ryu Ji-eun a 27 ans. La jeune diplômée tient une bougie dans ses mains, symbole de la démocratie.
Tout cela n'a aucun sens. J'étais chez moi quand j'ai appris que les enquêteurs ne pouvaient pas procéder à l'arrestation. Je suis tellement en colère, c'est pour ça que je suis venue.
Le président déchu est toujours retranché dans sa résidence. Il avait déclaré souhaiter, je cite, « se battre jusqu'au bout ». Séoul, Camille Ruiz pour France Inter.
Et puis aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, l'enquête se poursuit après l'attentat terroriste à la voiture Bélier qui a fait 15 morts dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le tueur, un ancien militaire américain qui a été abattu par la police, ce tueur a agi seul, nous dit désormais le FBI qui, dans un premier temps, soupçonnait des complicités. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, on parle du cancer de la langue. De plus en plus de cas, notamment chez les femmes. Maglone Haribo, qui a été soignée grâce à une greffe, vient nous en parler. Elle raconte son histoire dans un livre. La professeure Agnès Dupré-Bory est avec nous également. C'est elle qui l'a opérée. 01 45 24 7000. Si cette histoire vous touche, si vous avez des questions ou des témoignages. 13h45, le meilleur de notre feuilleton dans un parc d'attractions. Aujourd'hui, élu le meilleur de France, pas n'importe lequel. Nigloland, c'est dans le département de l'Aube. 13h50, c'est la France. Clémentine Blondet du journal L'Équipe. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et meilleurs vœux à vous, ainsi qu'à tous vos lecteurs du journal L'Équipe. La France du ski aujourd'hui, Clémentine, et la question de la sécurité.
Exactement, on va parler, Jérôme, des dangers du ski alpin après le grave accident de Cyprien Sarrazin à Bormio il y a une semaine.
Cyprien Sarrazin qui doit être rapatrié en France aujourd'hui. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, Marcia Baila d'Erita Mitsuko avec la comédienne Constance Dolé.
Passez les fêtes avec France Inter.
De l'humour, de la musique et des surprises pour enchanter vos vacances.
Ce samedi, on va passer un après-midi fantastique.
16h, Laure Grand Besançon.
Je vous emmène à la découverte de la tumultueuse symphonie et fantastique, hein, d'Hector Berlioz avec l'Orchestre National de France sous la direction de Christiane Macellaro.
La symphonie fantastique,
c'est ce samedi à partir de 16h.
Bonne fête avec France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Un temps pluvieux sur le sud-ouest, ensoleillé au nord.
Oui, alors de la Vendée et de l'Aquitaine vers l'Occitanie, on a en effet un ciel très encombré, de la pluie sur le sud-ouest, quelques pluies aussi sur le sud et l'ouest de la Corse avec un fort vent d'ouest. Le soleil brille largement sur le Jura, les Alpes, la Côte d'Azur, la basse vallée du Rhône. Attention au fort risque d'avalanche sur le nord des Alpes. De la Bretagne vers le bassin parisien et le nord de la Seine, là aussi beaucoup de soleil, on en profite. De la Sologne vers le Grand Est, la grisaille se morcelle, de belles éclaircies reviennent, mais ça reste plus gris quand même du Berry vers l'Auvergne et la Bourgogne-Franche-Comté. Les températures sont hivernales sur une bonne partie nord avec souvent 2 à 7 degrés. C'est plus doux du Pays Basque à la Méditerranée, 10 à 17 degrés attendus. Et puis demain, les pluies vont remonter progressivement vers le nord et le nord-est. Et attention au contact de l'air froid, on surveillera un risque temporaire de verglas.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Elle nous sert à goûter, à manger, à parler, à embrasser. Que serions-nous sans notre langue ? Cette question, des milliers de personnes se la posent chaque année dans notre pays. 5000, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer de la bouche diagnostiqués par an. Près de 16 000, ça c'est pour l'ensemble des cancers ORL. Et ce sont des chiffres qui ne cessent de croître. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que l'on sait les soigner. Bonjour Maglone Haribaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai envie de dire bienvenue chez vous, puisque vous travaillez à Radio France, vous êtes commercial basé à Toulouse, et vous publiez ce livre, Langue étrangère, livre en auto-édition, c'est-à-dire que les auditeurs peuvent par exemple le commander en ligne pour lire votre témoignage, vous y raconter votre combat pour sauver votre langue du cancer. Vous avez été diagnostiqué il y a 2 ans et opéré avec succès, greffé par le professeur Agnès Dupré-Bory, chirurgien à l'Oncopole de Toulouse, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là pour répondre notamment à toutes les questions que se posent les auditeurs d'Inter 01 45 24 7000. Pour être avec nous, vous passez également via l'application France Inter. Maglone, comment est né ce livre ?
Ce livre, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est que j'avais tellement la haine qu'il fallait que j'arrive à cracher tout ça, et c'est pas très joli le terme, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, et donc très rapidement j'ai écrit. En plus, la vie allait me voler peut-être un bout de parole, donc c'était...
Vous avez tenu un journal ?
J'ai écrit dans un cahier, ouais. Très simplement, tous les jours. Mais tous les jours, à partir du moment où je l'ai appris. Après, je me suis dit, ça va être un peu chaud, tout ce que tu vas traverser, donc si tu veux pas oublier, il faut le consigner. Après, j'ai pensé à mes enfants, et elles étaient ados, elles le sont toujours, et je ne pouvais pas tout leur dire, même si je n'ai rien caché. Donc c'était aussi un moyen pour moi de laisser une trace. Et après, bien après, je me suis dit que peut-être mon histoire pourrait permettre à d'autres patients qui passeront par là après moi de les aider. Au début, je n'ai pas du tout pensé aux autres, je n'ai vraiment pas pensé qu'à moi. Et c'est après où je me suis dit peut-être que ce serait bien de la partager.
Et ça fonctionne, il y a beaucoup de témoignages qui vous parviennent, on va en parler ensemble dans un instant. D'abord, je voudrais que vous nous racontiez comment tout cela a commencé au printemps 2022.
Ça a commencé par des aphtes qu'on m'a diagnostiquées, vous voyez j'ai un peu de mal à prononcer le sur le côté droit de ma langue, je les voyais très très bien, et j'ai vu un jeune médecin qui n'a pas fait le bon diagnostic, puisqu'il m'a dit que c'était des aphtes, ce n'était pas du tout des aphtes. C'était une tumeur qui grossissait. Et puis, c'est au détour d'un rendez-vous avec mon dentiste pour un simple détartrage que celui-ci m'a dit « Mais non, ce ne sont pas des aphtes ». Et après, ça s'est enchaîné assez vite.
Et donc là, vous avez pris la direction de l'hôpital ? Comment ça s'est
Alors,
passé ?
Je suis allée voir, ils m'ont envoyé vers un stomatologue qui m'a fait une biopsie tout de suite, en direct, dans son petit cabinet. Et après, 15 jours après, j'ai eu le résultat. Et là, j'ai appris que c'était donc un cancer de la langue.
Et donc, opération fin 2022 avec vous, professeur Agnès Dupré-Bory. En quoi consiste cette opération ?
Alors, pour cette opération, je précise, on est à 2 équipes chirurgicales qui travaillent en même temps. Donc, il y avait le docteur Vérel avec moi. Il y a une équipe qui va enlever le cancer et qui va enlever aussi les ganglions, parce que c'est le premier endroit où le cancer peut aller, au niveau du cou. Et ensuite, en fait, il y a une équipe qui s'occupe de la reconstruction. Donc, ça, c'est ma partie. Et on prend une partie du corps ailleurs avec des vaisseaux. On donne à cette partie la forme de la partie qu'on a dû retirer, donc dans le cas de Maglone, la langue. Et on va en fait regreffer cette zone-là et on va devoir rebrancher les vaisseaux sous microscope à des vaisseaux qui sont, dans le cas de Maglone, qui sont dans le cou.
Et c'est une longue opération.
C'est une opération qui dure donc à peu près environ 8 heures. Des fois, ça peut être plus long. Dans d'autres cas, ça peut aller jusqu'à 10 heures, 12 heures. Et voilà, ça mobilise beaucoup de monde à chaque fois.
Et pour ce qui vous concerne, Maglone, c'est un morceau de chair sur votre avant-bras gauche,
voilà,
qui a été prélevé.
C'est un bout de mon avant-bras gauche qui a servi donc à reconstruire ce bout de langue qui a été retiré.
Et ça fonctionne, j'allais dire, à tous les coups, professeur ? Il y a un taux de réussite très fort ?
Alors, pour ce type de reconstruction, le taux de succès, il est assez important. Enfin, le risque d'échec, il est faible, il est de moins de 5%. Après, il y a des reconstructions qui sont plus complexes, où on doit prendre de l'os également, et là, le taux d'échec, il est un peu plus élevé. Mais plus on est entraîné, plus on fait, en fait ce type de chirurgie, plus le taux de succès est important.
Je crois que c'est ce qui vous est arrivé également, Julien. Bonjour, Julien.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous nous appelez du département de l'Eure et vous avez commencé un peu comme Maglone, d'ailleurs, par le constat d'un aphte sur votre langue, c'est ça ?
Oui, exactement. C'était le même constat que votre invité. Au début, diagnostiqué comme un aphte par mon médecin généraliste. Et en fait, avec des traitements classiques, ça ne passait pas. Au bout d'un mois, deux mois, j'avais toujours des douleurs intenses, donc des difficultés à manger. Voilà, dès qu'on a un problème d'alimentation, ça devient très très compliqué par la suite. Et ensuite, mon médecin généraliste m'a emmené voir un ORL. Et comme l'invité avec son stomatologue, l'ORL m'a fait directement une biopsie. Et voilà, 15 jours plus tard, ça s'est avéré que c'était donc cancéreux. Et j'ai eu la chance d'être pris en charge directement par le centre Henri Becquerel à Rouen. Et ensuite, voilà, on a juste à serrer les dents et puis à prendre le train en cours. Et puis j'ai été très bien suivi, donc j'ai eu de la chance.
Vous aussi, c'est un morceau de chair qui vous a été prélevé ?
Alors moi, j'ai pas eu la tumeur était assez petite, donc ouais. Moi, on m'a enlevé un bout de langue. Donc en fait, j'ai un bout de langue en moins, mais j'ai pas eu de reconstruction derrière. Je n'ai pas eu besoin. J'ai eu quelques séances chez un orthophoniste pour la diction. Mais sinon, pas de reconstruction.
Merci Julien pour ce témoignage qui pose la question, Maglone, du dépistage très rapide, de savoir très rapidement ce qui vous arrive. Vous avez peut-être perdu un peu de temps entre le mois de mai et le mois de décembre.
Voilà, moi j'ai perdu 2-3 mois et avec les témoignages là, des personnes qui m'écrivent, en fait je me rends compte que l'errance au niveau du diagnostic, elle est assez longue pour beaucoup de patients. Et plus on attend, plus la chirurgie derrière est compliquée. Donc l'idée c'est peut-être d'arriver à réduire tout ça.
On a entendu, elle est avec nous, la professeure Agnès Dupré-Bory. Vous l'appelez ma queen aujourd'hui.
Oui,
vous avez gardé une relation forte avec elle.
Oui, en fait, le lien est un peu particulier, mais j'imagine que c'est un lien qui est assez courant entre un patient et un soignant quand ça se passe bien. Moi, elle m'a reconstruite. Si je parle aussi bien aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc oui, je lui suis redevable de beaucoup de choses. Oui, c'est ma queen, mais j'imagine que c'est la queen de beaucoup d'autres patients aussi.
Vous gardez contact avec tous vos anciens patients, Agnès Dupré-Bory ?
On suit les patients pendant 5 ans après, donc on les revoit régulièrement, on a des suivis cliniques, voilà, des imageries aussi à faire, donc pendant 5 ans, oui, on les revoit très régulièrement.
Alors, c'est une chose d'être diagnostiqué, d'être opéré, mais il faut aussi se réapproprier cette nouvelle langue, Maglone. Il y a quoi, une rééducation ? Comment ça se passe ?
Oui, la chirurgie, c'est la première partie, le temps de l'hôpital, c'est 15 jours, et après, on rentre chez soi, et il y a tout le travail à faire. Donc, c'est beaucoup de kiné, c'est beaucoup de travail d'orthophonie pour apprendre à parler, à déglutir, à mâcher. Donc on travaille la mobilité de la langue et on retravaille tous les sons pour arriver à parler un peu comme avant aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, si quelqu'un qui m'entend parler, qui ne me connaissait pas avant, on va se dire « mais il n'y a rien, mais moi ça me demande beaucoup plus d'efforts ». Mais il y a beaucoup de travail derrière.
Et vous avez tout retrouvé aujourd'hui ? Tous les goûts ? Vous pouvez manger tout, par exemple ?
Les goûts sont assez incertains. Parfois, j'ai beaucoup de désagréments en bouche, de picotements, de langue qui grossit à un moment donné. On ne sait pas pourquoi, elle est un peu rebelle. Mais en fait, je ne m'y arrête pas tellement sur ça. Mon objectif était de reparler comme avant. J'y suis arrivée et je suis hyper fière de ça.
Ça veut dire que vous faites parfois un peu violence, manger des choses qui ne...
Oui, absolument, parce qu'il y a plein de choses qu'elle n'aime pas, mais c'est pas grave. Si j'ai envie d'un café, eh bien je vais prendre un café, même si je sais que ça dilate mes vaisseaux et que derrière je suis pas très très à l'aise dans l'addiction, mais c'est pas grave.
là, vous nous parlez... Moi, j'ai du mal à percevoir... Je ne vous connaissais pas avant, donc j'ai du mal à percevoir la différence, évidemment, entre votre manière de vous exprimer avant, mais j'ai l'impression que vous vous exprimez sans difficulté. Est-ce que c'est tout de même un effort ?
Oui, c'est un effort. Mais en fait, ça me demande d'articuler plus distinctement. Donc j'ai l'impression parfois d'être un enfant de 3 ans qui fait des exercices avec son orthophoniste. Ça me fait assez sourire. Mais je m'en fiche en fait.
Maglone Haribo, vous êtes là pour nous parler donc de ce livre, Langue étrangère. Vous avez réussi à vaincre ce cancer. Évidemment, toutes les histoires ne se terminent pas comme la vôtre. Je voudrais qu'on accueille Nadège. Bonjour Nadège.
Bonjour.
Vous nous appelez de Reims, Nadège. Oui. C'est votre mari qui a été touché par ce cancer.
Oui, donc en 2001, pareil, ça a commencé par une plaie. On l'a enlevé, biopsie, cancer. Et ça a récidivé, il a fait de la radiothérapie, de la chimiothérapie, mais ça a récidivé 7 mois plus tard. Et il a donc subi très grosse opération, 12 heures, avec greffe de la moitié de la langue. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour qu'il puisse guérir. Donc c'est un cancer que je connais très bien et que je trouve très... très invalidant pour le malade, extrêmement mutilant, dévalorisant, parce que c'est un cancer qui se voit même après qu'on ait été soigné, opéré. Donc c'est dur à vivre.
Est-ce que vous cherchez toujours aujourd'hui à comprendre ce qui s'est passé, les causes peut-être, pour vous, pour votre mari disparu, aussi pour vos petites filles ?
Je cherche toujours, oui. Je cherche toujours, oui, parce que quelque part... quand on est atteint par une maladie grave, il y a peut-être une injustice. Mmh. Et puis on se dit, parce qu'il ne fumait pas, il ne buvait pas, il avait une vie très saine. Et voilà, oui, quelque part, je ne sais pas si j'arriverai à lire votre livre, madame, parce que c'est encore douloureux pour moi.
On l'imagine. Merci, Nadège, pour votre témoignage. La question du pourquoi, pourquoi moi, Maglone Haribo, vous avez dû vous la poser.
Première question qu'on a, pourquoi moi ? Pourquoi la langue ? Moi qui parle beaucoup, est-ce qu'elle veut me punir ? Et après, on se dit, effectivement, quelles sont les raisons ? J'ai fumé, mais j'ai arrêté il y a 10 ans, je ne bois pas, j'ai une hygiène de vie saine, je suis sportive, je ne suis pas trop vieille. Bon, est-ce que c'est la faute à pas de chance ou c'est... je ne sais pas, on ne sait pas.
Agnès Dupré-Bory, est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous éclairer sur ce point, quels sont les facteurs à risque et est-ce qu'on sait aussi expliquer pourquoi ce cancer progresse autant, hein, le nombre de cas recensés chez les femmes âgées de plus de 70 ans, c'est plus 72% entre 90-99 et 2010-2019. Ça, c'est une étude chez vous du CHU de Toulouse.
Oui, alors il y a le réseau du registre des cancers qui collige les cas de tous les cancers et notamment du cancer de la tête et du cou. Et ils ont montré que chez la femme, le nombre annuel de cas de cancer de la bouche a plus que doublé entre les années 90 et 2018. Et ça ne s'explique pas effectivement par le tabac, puisque la consommation de tabac, par contre, elle n'a pas augmenté. Mmh. Au contraire, elle a diminué. Donc il y a plusieurs facteurs de risque qui sont suspectés, même si en fait on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui cause cette augmentation du nombre de cas. Donc il y aurait en fait peut-être des facteurs alimentaires, environnementaux.
Environnementaux, c'est quoi ? C'est la pollution
peut-être, ou des aliments en fait,
des aliments,
des habitudes alimentaires. Ouais. Après, il y a des bains de bouche à l'alcool qui sont aussi évoqués. Il y a en fait des virus. Alors le virus HPV, il donne du cancer du col de l'utérus et du cancer de l'amygdale et de la base de langue, mais il n'explique pas cette augmentation du nombre de cas de cancer de la bouche. Après, il y aurait des bactéries, des champignons. Pour l'instant, on n'a pas de cause évidente à cette augmentation du nombre de cas.
Vous menez des études pour comprendre tout cela ?
Alors, il y a plusieurs équipes qui mènent des études. On travaille aussi en parallèle avec une équipe qui travaille sur des cancers de la cavité buccale chez les animaux de compagnie. Donc, on va essayer de comparer en fait des données chez l'homme et chez l'animal de compagnie. Mm-hmm. Et c'est surtout le Centre interrégional de recherche sur le cancer qui travaille dessus. Il y a une équipe à Rouen aussi qui travaille dessus.
Travaillez-vous aussi à Toulouse sur ce projet Bioface qui est de reconstruire encore mieux, si je puis dire, la langue et la mâchoire ?
Oui, nous en fait on a un projet de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche et France 2030, qu'on remercie. Et l'objectif c'est de proposer des reconstructions des os de la mâchoire ou du maxillaire avec des biomatériaux, puisqu'actuellement Pour Maglone, par exemple, on a dû reconstruire la langue avec une partie du bras. Et quand on doit reconstruire actuellement une partie de la mâchoire ou une partie du maxillaire, on prend un os de la jambe ou un os de l'omoplate. Et ça entraîne des séquelles encore plus invalidantes sur les sites de prélèvement. Et le taux de succès de ce type de reconstruction, il est plus faible que pour des reconstructions, par exemple, que de la langue.
Françoise est avec nous. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Merci de me prendre.
D'où est-ce que vous nous appelez, Françoise ?
De Paris.
Nous vous écoutons, Françoise.
Notre maman est décédée il y a 12 ans maintenant, en 2013. Et elle avait un cancer de la gorge et de la langue.
Ouais.
Ça a été une période extrêmement difficile pour elle et pour toute la famille. Elle souffrait énormément. On a passé les dernières années à lui faire des purées, etc. Enfin, voilà. Et la fin a été absolument terrible. Elle ne pouvait pas parler. On échangeait avec une ardoise. Voilà. Je me suis demandé si, en fait, en 2013, ça existait déjà, cette possibilité de greffe, parce qu'on n'en a jamais entendu parler.
Ouais, un peu plus tôt. Merci, Françoise. Je suis obligée de vous couper. Voilà. Il nous reste très peu de temps. Agnès Dupré-Bory, cette possibilité de greffe existe depuis longtemps ?
Alors, de greffe, alors au niveau du larynx, c'est différent en fait. Actuellement, il n'y a pas de greffe de larynx qui sont faites.
Ouais.
Il y a des études, il y a des greffes qui sont faites, mais pas dans des cas du cancer. Donc, on est obligé d'enlever le larynx et de reconstruire avec des tissus autour, mais les patients sont obligés de vivre avec une trachéotomie après, quand c'est des cancers du larynx évolués.
D'accord. Et cancer de la langue, c'était déjà possible en 2013 ?
Oui.
Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Agnès Dupré-Bory, de nous avoir donné toutes ces informations, notamment concernant l'avancée de la science et de la médecine. Merci également à Maglone Haribo, vous recevez toujours beaucoup de témoignages depuis notamment les interviews que vous donnez et ce livre également que vous publiez, que je recommande, Langue étrangère. Je voudrais également saluer Laurence Corr, notre consoeur de France Musique, qui nous a alerté à la fois sur votre combat et sur les ravages du cancer et qui s'est elle aussi battue contre ce cancer. Merci à elle. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, toute cette semaine, nous retrouvons les personnalités qui nous ont marqué ces derniers mois et qui font écho à l'actualité. Il y a quelques semaines, le parc d'attractions Nigloland, situé près de Troyes dans l'Aube, a été sacré meilleur parc d'attractions français dans la catégorie moins d'un million de visiteurs. C'est la troisième année d'affilée qu'il reçoit ce prix. Eh bien, au printemps dernier, nous y avions passé une semaine. Notre reporter Ajra Mohamed était ce jour-là avec Patrice Gélis, un des cofondateurs du parc.
Je suis Patrice Gélis et nous sommes avec mon frère et moi les deux fondateurs et créateurs du parc.
Et là, on est installé dans un endroit un peu particulier.
Oui, un endroit mythique, c'est la caravane de mon grand-oncle, du frère de mon grand-père. Nous sommes une famille très ancienne de forains et je suis issu en ligne directe de la plus ancienne famille de cirque de France.
Et pourquoi avec votre frère, vous avez dit un jour, on va rester pour de bon ici ? Et on va créer un parc d'attractions.
Mon père avait eu cette idée-là en 1971. On était à la foire à l'époque, en fait, avec notre manège à Thionville. Et on était allé pour un anniversaire de mon grand-père Gélis, au Luxembourg. On était partis se promener au parc de Bettembourg. C'est un parc animalier avec quelques attractions. Et mon père avait flashé, il a dit là on pourrait faire le parc merveilleux. On avait 16, 17 ans, 18 ans, avec mon frère on était gamins. Et puis on a repris l'idée suite à un voyage aux États-Unis en 83. On est allé aux États-Unis et là on a dit l'idée de notre père, il faut peut-être la reprendre parce qu'elle est vraiment bonne. Et puis voilà, on a décidé rapidement de faire le parc puisqu'on l'a ouvert en 87.
Avant Disneyland Paris.
Oui, avant Disneyland Paris. Mais nous exploitions dans la famille des spectacles et des manèges qu'il n'était même pas en culotte courte au Walt Disney. Hein. On ne pensait jamais acquérir une telle notoriété et puis avoir un parc aussi important il y a 30 ans. Et voilà, c'est le client qui décide. Tant qu'il vient, faut le satisfaire.
Le nom de ce parc, Nigloland.
Niglo, c'est un petit hérisson, c'est un animal un peu fétiche, parce que les gens du voyage ou les forains, bon, c'était une proie facile à capturer, très difficile culinairement à préparer. Le niglo, c'est un animal un peu symbole, qui a un côté très sympathique et qui n'est pas beaucoup utilisé. Donc en plus, on aura l'exclusivité d'exploitation du hérisson. Regarde. Voilà, pourquoi, regarde.
C'est un cadeau pour le bébé ?
Eh ben oui, ah, qu'il est mignon. C'est un plaisir.
Thank you. Ah, bisous. Moi. Yes. Tiens, une photo avec le bébé là.
Vous appelez comment?
Sean. From Wales. We do come here every year. You have done an amazing place. It's fantastic. It's very good.
Thank you for your visit.
Merci.
Vous auriez pu construire d'autres Nigloland ailleurs en France?
Non, parce que moi je considère que l'exploitation, comme on l'a fait nous, avec l'amour qu'on donne à ce qu'on fait, à notre métier, le bien-être qu'on essaie de donner à nos clientes, c'est comme la restauration de trop niveau. Il faut que le chef soit là dans les cuisines. Oui, parce que nous on est prêt à se mettre en jeu, à y laisser notre chemise, à y laisser notre santé et tout, parce qu'on vit de ça depuis plus de 200 ans. Donc c'est pas une affaire de finance là, c'est une affaire de sentiment. Et puis je pense qu'on est bien préservé pour l'avenir, parce que ce qui me rassure, c'est qu'on ne peut pas virtuellement faire ressentir à un client aujourd'hui, avec toute la technologie, des écrans 3D, enfin toute la technologie, le loisir qu'on offre, il ne peut pas être recréé. La fête foraine ou les manèges, c'est une odeur, ça sent la barbe à papa, ça sent les bonbons, il y a une ambiance très particulière. Nous, on est intouchables, on ne peut pas remplacer ce qu'on offre au public. On est préservé des technologies modernes et des grands qui veulent tout manger. Ben, nous, ils ne mangeront pas. Surtout qu'à Hérisson, ça pique.
Dans les coulisses de Nigloland, série signée Ajra Mohamad, réalisation Stéphane Ronxin, à retrouver sur l'application France Inter.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le vendredi. La France du sport avec le journal L'Équipe et aujourd'hui Clémentine Blondet. Clémentine, vous nous emmenez sur nos pistes où la France du ski s'interroge sur la sécurité après l'accident de l'un de ses champions. La semaine dernière, Cyprien Sarrazin.
Oui, une semaine après sa chute, lors d'une séance d'entraînement officielle à Bormio, en Italie, le skieur originaire de Gap doit être transféré aujourd'hui au service de neurochirurgie du Medipôle de Lyon. Victime d'un hématome intracrânien et opéré en Italie, Cyprien Sarrazin entre désormais, selon le médecin de l'équipe de France de ski alpin Stéphane Bull, dans une longue période de récupération, puis de rééducation. Cet accident spectaculaire, un an après sa victoire dans la descente sur cette même piste de Bormio, a ému tous les skieurs et particulièrement ses coéquipiers. Blaise Guizendanner a ainsi reproduit à l'arrivée la célébration cœur, en forme de cœur, de Sarrazin. Mmh. Et Sarrazin n'a pas été le seul skieur à chuter sur la Stelvio lors de ce week-end de Coupe du Monde. Plusieurs descendeurs ont quitté le tracé exactement au même endroit que le Français. Le Suisse Joshua Mettler, blessé aux deux genoux, a par exemple mis un terme à sa saison. Et lors du Super G le dimanche, Gino Cavizel, qui portait le dossard numéro 1, a percuté une porte et a été évacué par hélicoptère.
Cette piste de Bormio, la Stelvio, est-elle une piste plus dangereuse que d'autres?
Alors c'est surtout la préparation de la piste avec des conditions de neige trop changeantes et des petites vaguelettes qui font vibrer les skis qui a été critiqué. Alors Marcus Wallner, le patron du circuit masculin de Coupe du Monde, a répondu en expliquant que le parcours n'était pas uniforme car le vent avait séché la neige du bas vers le haut. Mais la dangerosité ne se résume pas à un tracé, elle dépend de plusieurs facteurs. Il faut d'abord réaliser que lors des épreuves de vitesse, donc les descentes et les super-G, les compétiteurs sont lancés à pleine vitesse et peuvent dépasser les 130 km/h. Puis il y a la quantité et la qualité de la neige, soumise au passage de nombreux skieurs, et les conditions météo qui peuvent être aussi changeantes. La saison dernière, on a assisté à des blessures en série, parce que certaines étapes de la Coupe du Monde comptaient pas moins de 3 épreuves de vitesse. Une accumulation de courses finalement jugée problématique par la Fédération internationale elle-même.
Il y a aussi, Clémentine, des questions qui se posent sur le matériel qui est censé protéger les skieurs.
Exactement. Alors, il y a déjà le casque, obligatoire à l'entraînement comme en compétition pour les skieurs professionnels, à la différence de ce qui se passe pour le grand public dans les stations françaises où le casque reste facultatif. Alors, on l'observe, les enfants sont quasiment tous équipés, ouais, mais certains adultes n'en portent pas malgré les risques non négligeables d'accident. Chez les professionnels, certains skieurs, au-delà du casque, portent déjà des sous-combinaisons anti-coupure. Et tous sont censés être équipés désormais d'un airbag portatif, une protection qui vient du monde de la moto. L'équipement qui se déploie en cas d'accident est porté par tous les skieurs français, dont beaucoup ont été durablement marqués par le décès en 2017 de leur coéquipier et ami David Poisson lors d'un entraînement. En revanche, plus d'une trentaine de skieurs et de skieuses ont obtenu une dérogation de la Fédération internationale, estimant que les modèles disponibles ne leur convenaient pas. Perfectible, l'équipement a déjà permis de limiter les conséquences de certaines chutes. une piste parmi d'autres pour que les risques ne deviennent pas déraisonnables.
Et on a bien compris les enjeux. Merci Clémentine Blondet du journal L'Équipe de C'est la France. Ah, c'est une chanson, dernier épisode de notre semaine spéciale années 80 concoctée par Frédéric Pommier, avec aujourd'hui la comédienne Constance Dolé et un titre de 1984 iconique, Marcia Baila des Rita Mitsouko. Alors le morceau a été écrit en hommage à Marcia Moretto, danseuse qui accompagna le groupe en tournée. Elle est morte d'un cancer du sein et c'est lors d'un camp scout que Constance Dolé a découvert cette chanson.
C'était un camp à vélo et c'était en Bretagne. Il faisait un temps pourri et on avait été saucés pendant une semaine à peu près. Et on arrive dans une espèce de bar un peu bizarre, avec que des Bretons. Enfin bref, c'est image d'Épinal du Breton qui boit de la bière et voilà. Et ce truc est passé à la radio. J'ai oublié que j'étais trempée, que j'en avais marre, que c'était mon premier camp, que je trouvais tout pourri. J'ai été transportée ailleurs. En plus, il se trouvait que dans ce camp, j'étais un peu sadisée par une fille. Et j'étais pas très heureuse, quoi. Et je me souviens que, ouais, cette chanson, elle m'a donné une espèce d'énergie. Et je me suis dit, ce truc-là, je l'oublierai jamais. Vraiment, c'est la seule chanson qui m'ait fait ça. C'est fait là.
Instinctivement, cette chanson d'Erita Mitsouko, on ne l'associe pas à un camp scout.
Non, on ne l'associe pas, mais on peut l'associer à quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital, en fait. C'est le corps, en fait. C'est le corps qui s'est mis pratiquement à bouger tout de suite, où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'ai jamais entendu une chanson française qui ressemble à ça, j'ai jamais entendu une voix qui ressemble à celle de Catherine Ringer. Il y avait quelque chose qui dépassait tout ce que je pouvais connaître et ce que j'aimais d'ailleurs du disco des années 70, quoi.
Il faut que je vous dise, donc je l'ai écouté la première fois, donc c'était en 84. Et puis, des années plus tard, plus de 20 ans plus tard, André Téchiné fait un film qui s'appelle « Les témoins » et qui parle du sida. La rencontre ne se passe pas très bien avec André, en fait, au départ, parce qu'il m'avait fait attendre hyper longtemps, et que je ne sais pas, ce jour-là, je ne devais pas être de bonne humeur, et je n'ai pas été très cool avec lui. Enfin bref, finalement, il m'appelle quelques jours plus tard en me disant « Ok, tu vas jouer le rôle de cette femme, Sandra. » Ça se passe dans les années 80, elle traîne dans un bar de la Porte de Clignancourt, et il me dit « J'aimerais qu'il y ait une scène où elle danse sur une chanson de ces années-là. Est-ce que tu aurais un truc à me proposer ?» Moi, je me dis, évidemment qu'il faut que ce soit Marcia Baila. Et donc, en fait, le jour arrive et il me dit, OK, tu danses là. Et il était genre peut-être 2-3 heures du matin, je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, t'improvises un truc. Et j'étais pas du tout au courant qu'il allait falloir danser comme ça pendant aussi longtemps. La chanson passe et puis voilà, c'était ma rencontre avec cette chanson et ce tube. Donc, c'était à la fois les camps scouts et à la fois le sida. C'est bizarre, hein?
Cette chanson, elle donne envie de danser, et pourtant, elle raconte une femme qui est morte d'un cancer.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est drôle parce que ça, je le découvre après. D'ailleurs, même les paroles de la chanson, quand on n'y prête pas vraiment attention, elles sont difficiles à capter. Et ce qui est toujours étonnant, c'est de voir les gens qui se trémoussent sur cette chanson en chantant les paroles. C'est assez dingue qu'ils aient réussi à faire ça, ouais. C'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. C'est la mort. Tu t'es consumée, Marcia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es en cendres. En cendres. La mort, c'est comme une chose impossible. Et même à toi qui es forte, comme une fusée. Et même à toi qui es la vie même, Marcia. C'est la mort qui t'a emmenée.
Alessia Baila, les Rita Mitsouko. C'était donc le choix de la comédienne Constance Dolé au micro de Frédéric Pommier. Et un peu de rab pour le générique de la semaine. À la rédaction en chef, Cécilia Arbona, Estelle Schmitt et Sébastien Sabiron étaient là, assistés de Nicolas Sabat, Swad Bellani, Benjamin Ducy, Sylvain Lesage, Rachid Zourdani et Joseph Ascal. À la technique, Sofiane Aktib, Thomas Allard, Romain Leborgne, Ludovic Asselot et Fabrice Desmaz. On n'oublie pas à la programmation, Aurore Mansip, La Terre au Carré et Mathieu Vidard est à suivre.